Ce week-end, les fermes de la région vous accueillent.
C'est une belle opération et qu'on favorise en les accueillant régulièrement sur notre antenne, les personnes du CIVAM régional et également d'Agribio 04. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Weyrich qui va nous parler de cette opération de ferme en ferme. Bonjour Mathieu.
Bonjour François.
Avec cette opération qui est une opération qui permet de rapprocher les agriculteurs et notamment les agriculteurs biologiques de leur public.
C'est sûr. C'est ouvert pas qu'à l'agriculture biologique, hein. Je crois que c'est ouvert à tous les agriculteurs, mais c'est vrai qu'on est majoritairement en AB, ceux qui participent à ces deux journées. Alors, oui, moi je trouve ça très très bien, parce que bon, moi je suis géographe de formation, et sur le terrain, c'est encore là qu'on arrive le mieux à expliquer ce qu'on est en train de faire. À la fois en regardant la topographie, en regardant ce qu'on a planté, en fonction de la sécheresse, de la température, quelles plantes adaptées à quel style de sol. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que c'est mieux sur le terrain.
C'est une opération régionale qui se déroule notamment dans le Vaucluse, dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute-Provence. Il manque un petit peu les Hautes-Alpes, selon moi. Mais enfin bon, peut-être qu'on verra ça plus tard avec le CIVAM. Je rappelle que le CIVAM, c'est le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et c'est un groupement régional, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est également une association d'éducation populaire. Donc c'est tout à fait dans les cordes du CIVAM d'organiser l'opération de ferme en ferme.
Oui, tout à fait. Bon, au même titre que Agribio, par exemple, après, pour reprendre...
Agribio, c'est le groupement des agriculteurs biologiques
c'est
des Alpes de Haute-Provence.
C'est ça. Je sais même pas si Agribio travaille pas un petit peu en partenariat avec la Chambre d'agriculture, même si elle n'apparaît pas sur les feuilles. Mais bon, voilà, c'est à la fois agricole et à la fois, effectivement, permettre d'ouvrir et d'accueillir un maximum de public sur les fermes.
C'est pas la première édition de l'opération de ferme en ferme. Je suppose que si vous reconduisez l'opération, c'est que ça se passe bien.
Je pense que, de toute façon, ça se passe bien. Bon, il y a des gens qui s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent.
Quand vous dites des gens, c'est les professionnels.
Hein, les agriculteurs. Bon, après, le plus compliqué, c'est quand même d'essayer d'organiser des circuits qui tiennent la route, parce qu'il ne s'agit pas de mettre une ferme dans le nord du département et une ferme complètement au sud, parce que là, les gens vont s'y perdre. Mais voilà, à partir du moment où on est quelques-uns sur le même secteur, moi, je fais partie, par exemple, du secteur de Valensole. C'est très très bien, et ça permet aux gens de voir à la fois du paysage et de rencontrer des gens divers qui font des activités complètement différentes les uns des autres.
Et d'aller à proximité voir les exploitations. Par exemple, dans le département des Alpes de Haute-Provence, il y a quatre secteurs qui sont définis, le pays de Sceaux, celui de Fort-Calquier, le pays de Valensole et les Duy et Obléa. Et au-delà, c'est au-dessus donc de Digne, des endroits où les agriculteurs travaillent ensemble et en même temps travaillent en diversifiant leurs activités.
Alors, travailler ensemble, par exemple, si moi je pars sur le secteur...
Pour mettre ces circuits en place. Hein,
tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que en agriculture biologique, moi j'ai plus de contacts sur le plateau de Valensole où il y a davantage d'agriculteurs en bio que sur le secteur d'Entrevennes à proprement parler, où là on est, on se compte même, je crois que je suis le seul à Entrevennes.
Alors on va parler de votre exploitation justement, qu'est-ce que vous cultivez Mathieu?
Alors moi historiquement sur mes parcelles j'avais des oliviers, on a rajouté du safran depuis 1999, et puis actuellement j'essaye de me diversifier en plantant encore d'autres variétés ou d'autres espèces. Alors j'ai de la vigne, on va replanter du cognassier, on a des figuiers qu'on va essayer de développer. J'ai des truffiers que mon père a plantés, mais je n'ai que le nom et je n'ai pas la truffe encore. Donc, peut-être que ça viendra un jour.
Il faut être patient dans ce cadre.
Tout à fait. Ou alors se dire que de toute façon, pour devenir chêne, il faut commencer gland. Hein. Donc, je suis peut-être encore à la phase du gland.
Il faut attendre un peu. Ouais. Pour ce qui est de l'or rouge, du safran, c'est relativement nouveau dans notre département que de réinstaller des safranières un petit peu partout. Comment ça se passe pour votre exploitation?
Alors, c'est une culture qui est qui est pas compliquée à mettre en œuvre. Et qui demande pas de surface énorme. Du coup, dès qu'on a un petit restant, par exemple, si on prend la culture de l'olivier, on peut très bien planter un petit carré de safran au milieu des oliviers. Donc c'est quelque chose qui est très facile à essayer d'implanter. Bon, il suffit de planter un bulbe hein, à la bonne saison, et ensuite il faut entretenir et surtout se prémunir des dégâts que peuvent causer les sangliers derrière. Une fois qu'on a planté ce bulbe...
Il y a des prédateurs, il y en a beaucoup. Alors, en fait, sur votre safranière, par exemple.
Il y en a deux, je dirais, de prédateurs qu'il faut surveiller. C'est le sanglier. Bon, ben, celui-là, il faut mettre une clôture électrique en place pour essayer de se prémunir de ses dégâts. Ou de le chasser quand la période est ouverte pour le faire partir, mais souvent il revient quand même au même endroit. Et puis il y a le campagnol. Donc lui, il est plus difficile à faire partir parce qu'il faut le piéger.
Le campagnol, c'est un...
C'est un rat taupier, c'est entre la taupe et le rat en fait. Et la différence avec la taupe, c'est qu'il fait des galeries qui sont obliques et pas verticales. La taupe, elle va creuser verticalement, alors que le rat taupier va faire des galeries un petit peu, enfin, pas complètement verticales et pas complètement horizontales. Et du coup, ce petit mammifère, là, nous cause pas mal de dégâts. Quand il y en a un sur les safranières, ben, à part, voilà, le piéger avec des pièges adéquats, alors il y en a plusieurs, ben, c'est très très difficile. Même, et y compris, si on laisse de la végétation autour ou qu'on essaye de favoriser la pose des rapaces. Parce que les rapaces peuvent le chasser, y compris la nuit. Mais même en faisant ce genre de choses, quand il y en a plein, voilà, c'est compliqué.
Et je suppose en plus qu'ils doivent se reproduire relativement vite et en nombre.
C'est ça.
Ouais.
C'est...
Donc ce week-end, c'est un week-end fort pour les exploitants qui se dirigent tout simplement qui ouvrent leurs portes pour le public, pour les recevoir. Ça peut être des enfants, ça peut être des familles entières, et pas uniquement des consommateurs, des gens, des curieux tout simplement.
Tout à fait. Alors moi, c'est ce que je fais déjà tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on m'appelle et moi, je fais visiter très très volontiers ce que je suis en train de faire. Là, je dirais que des fois, le petit problème de ces deux journées, c'est qu'on peut avoir plusieurs groupes qui arrivent en même temps et que c'est quand même très très difficile d'aller à la fois sur le terrain, d'expliquer en même temps et sans faire trop patienter les gens. Mais bon, on essaie de s'adapter et puis ça se passe en général très très bien.
Avec des gens qui vous posent des questions techniques, des questions pleines de curiosité, je suppose.
Ah ouais, on a de tout. Mais surtout, dans la mesure où moi, je fais quand même beaucoup de choses. Donc, on peut passer de la culture de la vigne à la culture du safran, à la culture de l'olivier, etc. Donc, voilà, c'est vraiment ouais, c'est très, très varié. Mais c'est ça, le métier d'agriculteur. Hein. C'est d'être toujours en recherche d'explications et de science sur les différentes cultures.
En plus de ces visites, il y a également des pauses gourmandes. Alors ça, je ne sais pas si vous le faites dans votre exploitation, mais je sais qu'il y en a plusieurs dans le département. Et là, ça permet de goûter les produits du terroir, des produits de qualité et qui sont fournis notamment en agriculture biologique.
C'est ça. Alors moi, je fais des petites dégustations. On fait des petits gâteaux, par exemple, au safran pour essayer de bien montrer à quoi ressemble le goût du safran. Et puis, on peut faire une petite dégustation d'huile d'olive à côté. Bon, pour ma part, c'est tout pour le moment. Bon, mais après, j'attends que le reste pousse et j'espère proposer davantage de produits par la suite.
Il peut y avoir des échanges entre des exploitants, par exemple, qui fabriquent du pâté ou des produits de l'olive
Pas dans ce cadre-là. Je pense que ça pourrait être envisageable, mais là, actuellement, non, c'est pas tellement le cas. On fait pas trop d'échanges puisque les fermes qui participent essayent de garder et de montrer exactement ce qu'elles font chez elles.
Oui, c'est plutôt un focus particulier sur les fermes. Il y a également deux soirées qui sont organisées. Alors, je sais pas à quels endroits elles sont organisées. Vous le savez, Mathieu?
C'est à Valensole, je crois, où il y a déjà une soirée avec un concert, à la ferme des Seguins. Et après, alors s'il y en a une autre, j'ai pas bien regardé ou pas bien suivi.
On va donner les infos avec tout le programme, évidemment, dans un instant. Je rappelle que c'est donc la quatrième édition. Et puis il y a un souci dans notre département, évidemment, lié à l'agriculture. Je parle pas du loup, ça c'est très particulier, ça concerne les éleveurs en priorité. Mais le souci dont je voudrais parler, c'est l'eau. Notre département... et on va dire tout le sud de la France manque d'eau. Est-ce que les agriculteurs économisent bien cette ressource exceptionnelle qu'est l'eau?
C'est difficile pour moi de répondre là-dessus parce que moi je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup parler. Bon, c'est vrai que quand je vois un oliculteur ou un lavandiculteur, enfin non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est un lavandiculteur, oui. Qui veut arroser ses lavandes aujourd'hui, bon, moi je me demande si on va vraiment dans le bon sens. Moi, je revendique plutôt une agriculture au sec. Alors, qui dit agriculture au sec dit rendement probablement plus faible, mais du coup, il faut essayer de se diversifier davantage et d'avoir plusieurs cultures sur la même parcelle, avec des cultures qui vont mieux marcher que d'autres, même et y compris si l'année est sèche.
Ça veut dire aussi qu'il faut bien identifier les espèces qu'on cultive.
Tout à fait.
Des tomates et des lavandes, c'est pas tout à fait la même chose en termes de besoin en eau.
Alors, si on prend le cas de la tomate, par exemple, on a quelqu'un qui s'appelle Pascal Pott, qui travaille à l'ODEV, et ça fait 30 ans qu'il travaille sur des semences de tomates, et il a réussi à mettre au point, enfin pas à mettre au point, mais par le simple observation, et puis l'utilisation, enfin la plantation, la récupération de graines, il a réussi à faire des tomates qui résistent relativement bien à la sécheresse.
En extérieur ?
Tout à fait. Donc j'invite les gens à aller voir son site et la façon dont il fonctionne, et c'est passionnant. Parce que quand on parle du manque d'eau, on parle pas forcément des variétés qu'on plante. Or les variétés, la plupart du temps, elles ont été croisées, donc c'est des hybrides, on n'a plus les variétés du départ, et du coup ces variétés-là résistent moins à la sécheresse aussi. Donc c'est vrai que si on n'a pas l'eau aujourd'hui pour certaines plantations, ben on n'y arrive pas. Alors que si on reprenait, et là j'insiste sur l'olivier par exemple, si on prend un souquet, ce qu'on appelle un souquet, on prend un petit rejet du pied, on le replante à côté, certes, il va falloir arroser au départ, mais après, normalement, c'est quelque chose qui est bien adapté, qui a déjà subi des sécheresses historiques. Donc, voilà, il faut revenir à quelque chose de simple, pas forcément aller rechercher des choses très très compliquées à côté, quoi.
Tirer les leçons du passé, en quelque sorte, hein.
C'est ça. Et puis, il y a des livres aujourd'hui qui remettent ce genre d'explications au goût du jour. Je pense au livre d'Éric Fabre, qui est sorti aux archives départementales, je crois, l'année dernière, qui s'appelle « La vie de Haute-Provence entre le 17e et le début du 20e ». On a aussi, là, récemment, j'ai feuilleté un livre sur la vallée du Verdon avant la mise en eau du barrage de Sainte-Croix, par exemple, où on y décrit les cultures qu'il y avait à l'époque, avant que ça devienne un lac. Bon ben voilà, à l'époque, il y avait déjà des versants qui étaient déjà dépourvus d'eau, ou en sécheresse, alors peut-être un peu différemment. C'est vrai que le climat a peut-être un peu changé maintenant, mais enfin, on a eu quand même des cycles, je suppose, de sécheresse, et on s'est parfaitement adapté. Enfin, les plantes ont réussi à résister jusqu'à maintenant.
C'est une belle opération tout ce week-end, donc des fermes qui sont ouvertes dans le département des Alpes de Haute-Provence, mais aussi dans d'autres départements, je vous redonne les noms, hein, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, par exemple. C'est organisé par le CIVAM et Agribio 04. Et pour avoir des renseignements, eh bien, il faut aller. Il y a un numéro de téléphone pour ce qui est du département du CIVAM. C'est le 04 90 78 35 39. 04 90 78 35 39. Et puis, évidemment, si vous tapez, je suppose, CIVAM ou Agribio 04 pour ce qui est du département des Alpes de Haute-Provence, vous avez tous ces renseignements et évidemment le programme. Profitez-en, allez encourager tous ces défenseurs de aussi bien de la nature que de la qualité des produits agricoles qu'ils cultivent dans les Alpes de Haute-Provence comme dans les autres départements, et profitez-en pour discuter avec eux de leur métier et de leur production. Merci encore Mathieu Veyrich d'avoir été mon invité pour parler de cette belle opération.
Eh bien, merci à vous.
Et à bientôt.
Voilà, à très bientôt.